comme je ne viens pas d'ici, peut-être que vous serez intéressé, pour certains du moins, de connaître un peu mon arrière-plan familial. Donc, les 7 points que j'ai marqués là, de 2 jusqu'à 5, c'est 0 à 14 ans. C'est les années de ma vie, 14 à 26 ans, 26 à 32 ans, 33 jusqu'à 38 ans. Qu'est-ce qui nous a amené ici à Gatineau? Et puis, quand je m'assois et puis que je regarde tout cela, du numéro 1 jusqu'au numéro 6, qu'est-ce que je comprends? Alors, c'est ça que je voulais partager avec vous ce matin. Je prends actuellement un médicament, parce que je dors très très mal, moi, pour dormir, et puis ce médicament me donne la bouche sèche à chaque moment. Donc, quand je bois souvent, c'est à cause de ça. Alors, tranche de vie. Mon arrière-plan familial. Je viens du Togo. Next. Je viens du Togo. Le Togo, est-ce que tout le monde sait où ça se trouve, le Togo? Ah, à côté du Bénin, ouais, mais pas beaucoup. J'aurais dû mettre une carte alors pour mieux illustrer ça. Le Togo, c'est en Afrique occidentale. Plusieurs connaissent peut-être la Côte d'Ivoire. On entend parler de la Côte d'Ivoire. Bon, après la Côte d'Ivoire, il y a le Ghana. Et après le Ghana, il y a un petit Togo, un petit pays qui est entre le Togo et le Bénin. Après le Bénin, il y a le Nigeria, le Cameroun. Donc, c'est ça, c'est un peu comme ça dans la corne ouest africaine. Donc, je suis né dans un petit village de quelques milliers d'habitants. Un village qui n'a pas bonne ou mauvaise réputation, un village comme tous les autres. Et je suis le 14e d'une famille de 16 enfants. Et vous allez dire, wow, la maman a eu beaucoup de travail à faire. Mais en fait, c'est pas ça, parce que mon papa est polygame. Et c'est tout à fait normal en Afrique d'être polygame. Mon papa avait 3 femmes et chacune des femmes avait 5 enfants. Et elle a eu une 4e femme qui a eu juste un enfant avant de mourir. Donc moi, je suis le 14e de cette fratrie de 16 enfants. Et dans le contexte africain, quand on parle de polygamie, en général, les 14 autres, les 15 autres enfants, je les considère comme mes frères ou mes sœurs. Il n'y a pas cette distinction-là en disant c'est mon demi-frère. Ça ne se dit pas trop chez nous. C'est mon frère, un point, c'est tout. Une fois qu'il vient de mon papa, c'est mon frère. Une fois que si c'est une fille, c'est ma sœur. Et c'est comme ça qu'on les considère. Mais j'ai très vite appris quand même que la polygamie n'est pas une bonne chose, parce que, vous savez, quand vous avez 3 femmes qui sont on était dans la même maison, et que le papa va dans ses affaires et puis revient le soir, vous comprendrez bien qu'il y a une certaine compétition pour savoir chez qui le papa va manger ce soir, ce qui va déterminer qui c'est qui va attirer plus l'affection. Alors, donc, nous, les enfants, on vivait dans ce contexte-là, mais c'est tout à fait normal pour nous, il n'y a pas de problème. Donc, je dis que ma femme est polygame mon papa plutôt, est polygame officiel. Et polygame officiel, ça veut dire que c'est bien reconnu, le clan, la société a reconnu ça, et puis c'est une manière de vivre en Afrique. Et quand je fais une comparaison aujourd'hui avec la Bible, j'ai vu que la polygamie, si c'est pas une bonne chose dans la Bible, c'est normal que dans mon temps, que je reconnaisse aussi qu'il y a des frictions dues au fait qu'il y a des compétitions entre les enfants et tout cela. Mais l'ensemble de la culture nous amenait à accepter cet état de fait comme étant quelque chose de tout à fait raisonnable. Donc, pour ma famille, mon papa et ma maman n'ont jamais mis pied à l'école. Donc, ils n'ont jamais étudié quoi que ce soit. Et nous, on vivait, donc vous voyez que je viens d'origine très, très modeste. Mes parents n'ont jamais travaillé dans un bureau. Leur bureau, c'est le champ. Le champ, c'est pas un champ comme on voit ici où on vit dans des tracteurs climatisés et tout ça. Non, c'est fait à la main. C'est fait avec la houe et le coupe-coupe. Tout est fait manuellement, donc c'est vraiment à la sueur de son front. Je comprends bien ce que ça veut dire. Et donc, on a évolué dans ce contexte. Mes parents, n'ayant jamais fréquenté l'école, et sachant ce que l'école peut apporter, ils ont décidé que tous leurs enfants iraient à l'école. Je dis tout, mais avec une exception, parce que dans ma famille de 16 enfants, il y avait 11 garçons et 4 filles. 11 garçons et 5 filles. Et les garçons avaient droit à l'école, mais les filles non. Toutes mes sœurs n'avaient aucun droit à l'école, n'étaient pas scolarisées, parce que là encore, ça vous surprendrait ici, mais là-bas, c'est tout à fait normal. Dans ce temps-là, c'était tout à fait normal. Les filles sont là pour aider les mamans à la maison et ensuite se marier, faire des enfants. Et les garçons peuvent aller à l'école pour avoir une éducation et puis avoir un emploi et tout cela. Donc, c'est le contexte dans lequel j'ai grandi. Et quand on parle de bon, comment est-ce qu'on vivait, ben, la semaine, à partir de 6 ans, on pouvait aller à l'école. Et quand on revenait de l'école les fins de semaine, on devait aller aider le papa dans les champs. Pourquoi la polygamie est très, très populaire en Afrique aussi? Parce que dans le temps, encore une fois, surtout dans les villages, la conception, c'est que plus tu as d'enfants, plus tu as de la main-d'œuvre, donc plus tu peux avoir cultivé de grands terrains et plus tu peux avoir des ressources et plus ta renommée est élevée. Donc, c'est un peu tout ça le contexte. C'est la main-d'œuvre, c'est plus de bras pour travailler et tu peux avoir de grands champs et tu peux avoir une notoriété dans la famille ou dans la société. Et au niveau religion, j'étais élevé dans la religion animiste, l'animisme, que si vous savez ce que c'est en fait tous les êtres vivants ou même tous les objets ont une âme. Chez nous, c'est comme ça. Quand tu vois une montagne, la montagne a une âme. Si tu vois un arbre, l'arbre a une âme. Tu vois un être vivant, il a une âme. Donc, tout pour nous a une âme. Et c'est pour ça que c'est difficile pour moi de dire, quand on dit qu'un Africain est athée, moi, j'ai du mal à le croire. Parce que nous, on voit le spirituel dans tout, en réalité. Et, du moins, dans mon cas, où je suis venu d'un village très modeste, c'est comme ça. Donc, l'animisme, c'est dire que mon papa aussi allait à l'église catholique, bien évidemment, et nous amenait à l'église catholique. On n'était pas des fervents catholiques, mais on allait à l'église quelques dimanches par année, et surtout ne pas manquer les journées spéciales comme Noël, Pâques et tout ça, on allait à l'église. Mais ça ne nous empêchait pas que dans la semaine ou les fins de semaine, le samedi, on aille faire notre culte du vaudou. C'était assez classique. Et puis, on voyait aucune dichotomie, aucun problème avec ça. Donc, c'est ça qu'on appelle le syncrétisme, en fait. On était syncrétistes sans le savoir. Pour nous, ben, Dieu, c'était comme une béquille. Quand on en a besoin, ben, on peut l'utiliser. Mais Satan ou le vaudou, avec tout ce que ça comporte, les statuettes et tout cela, les amulettes qu'on portait, ça aussi avait une valeur pour nous protéger, dépendant de la situation dans laquelle on se trouvait. Donc j'ai vécu dans ce contexte où l'Église catholique le dimanche, de temps en temps, et puis le vaudou quand c'était nécessaire. Et c'était très fréquent qu'on consultait les esprits. Consulter les esprits, c'était quelque chose qui est monnaie courante chez nous. Quand il n'y a jamais quelque chose qui se passe sans qu'il y ait quelque chose de spirituel en dessous. Quand il y a quelqu'un qui est malade dans la famille, c'est parce qu'il a offensé, il a fait du mal à quelqu'un et un ancêtre qui est décédé il y a 10 ans, 20 ans, est fâché. Donc, il faut, pour l'apaiser, aller faire un sacrifice à cet ancien-là. Donc, c'est ça le contexte de l'animisme. Pour ceux qui ne sont pas très habitués, je sais que s'il y a des frères africains ou haïtiens ici, ils comprendraient très bien. Donc, on est élevé dans cet esprit ou dans cette atmosphère où on consultait les esprits. Moi, ça fait longtemps, plusieurs fois que j'ai été chez le charlatan. Et puis, derrière un voile, le charlatan appelait l'esprit de mon grand-père que j'ai jamais vu. Et le grand-père me parlait et donner des conseils et des consignes à la famille. Donc, c'est ça. C'est quand même assez spécial. On vivait dans ce contexte-là. Alors, je dirais que c'est ça qui résume un peu mon enfance, l'environnement dans lequel j'ai vécu et donc mon arrière-plan familial. C'est ça. Donc, on passait à la deuxième diapo. Donc, étant né dans ce contexte-là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'ai ma première tranche de vie, je l'ai caractérisée de 0 jusqu'à 14 ans. Et comme j'ai dit pour mon papa, étant donné qu'eux, ils n'ont pas été à l'école, c'était important que les enfants, les garçons aillent à l'école. Je suis le cinquième de ma maman, donc le petit bébé de ma maman. Quand ma maman a cinq enfants, je suis le dernier. Donc, j'ai vu tous mes frères, tous mes trois autres frères, ma sœur n'a pas été à l'école, mes trois autres frères ont été à l'école, et celui qui vient juste avant moi a 5 ans de plus que moi, 4 et demi, 5 ans de plus que moi. Donc lui, il a été à l'école, et quand moi j'étais encore à la maison, et j'enviais tellement, quand il revenait et puis il écrivait ou il lisait, j'enviais tellement ça. Alors, j'étais tellement collé à lui que mon papa, ça l'a fatigué. Et comme 6 ans, c'est l'âge légal pour aller à l'école, mais il connaissait bien le professeur de l'école. Donc, il a demandé la permission quand j'avais 4 ans, si je pouvais aller à l'école. Alors, le professeur a accepté. Donc, il l'a fait comme ça à la blague pour que j'aille à l'école. Et puis, j'ai tellement bien fait que... Au lieu de commencer à 6 ans, j'ai commencé à 4 ans et j'ai évolué comme ça jusqu'à, au lieu d'avoir 12 ans pour avoir mon premier diplôme d'école primaire, ben, je l'avais à 10 ans. Donc, j'ai évolué comme ça avec mon frère de 5 ans de plus que moi comme étant mon tuteur. Et c'est ce qui m'a amené à apprécier, moi je disais toujours à mes parents, moi, travailler au champ, c'est pas mon affaire, c'est pas mon truc. J'étais très paresseux par rapport à ça. Pour être franc avec vous, quand on allait au champ, je trouvais toujours une occasion pour aller me cacher dans un arbre. Mais quand c'est l'heure du manger, je suis toujours présent. Mais après ça, je trouvais toujours une occasion pour disparaître à nouveau. Donc, mon père a tout essayé pour me faire travailler au champ, mais ça ne fonctionnait pas. Donc, il a accepté malgré lui que ben, pour moi, c'est les études. Et alors, ça entraînait moins de chicanes entre moi et mes parents. Donc, dans mon frère qui venait avant moi, dont je parlais, il s'appelle Didier. Du coup, Didier avait 5 ans de plus que moi, mais il n'avait que 2 ans d'études au-dessus de moi, étant donné que moi, j'ai commencé à 4 ans. Et quand il a fini l'école primaire, il n'y avait pas d'école secondaire dans notre petit village. Donc, il devait partir dans une petite ville qui était à 12 kilomètres de mon village. Mais 12 kilomètres, pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais ça se faisait à pied, bien évidemment. Donc, comme il ne pouvait pas le faire tous les jours, il avait une location chez un habitant. Donc, il vivait avec un habitant là-bas, mais il avait sa chambre. C'est lui-même qui devait faire à manger. Et moi, 2 ans plus tard, je l'ai rejoint dans cette ville pour aller, si je voulais continuer les études. Donc, j'ai quitté la maison à 10 ans et demi, 11 ans. Donc, j'ai quitté mes parents à cet âge-là. Ce qui veut dire que toutes les fins de semaine, il fallait qu'on revienne à la maison pour chercher, faire la provision pour la semaine qui suivait. Donc, toutes les fins de semaine, on faisait 12 kilomètres de marche pour revenir. Bon exercice. Et le dimanche soir, on repartait 12 kilomètres pour aller étudier. Oh oui, sans problème. À combien de temps? À peu près 2 heures et demie. Ouais, c'est ça. Et bon, après, on nous avait acheté des petits vélos, ce qui facilitait encore la tâche, mais bon, sans vous cacher que les vélos tombaient souvent en panne et puis pas d'argent pour réparer, donc on préférait bien nos pieds qui tombaient moins souvent en panne. Alors, donc, à l'âge de 14 ans, il y a quelque chose qui s'est passé quand j'avais 14 ans. Pour faire une histoire courte, là, mon frère Didier était revenu de vacances, c'était pendant l'été, et on l'a envoyé, mon papa l'a envoyé pour faire une commission qui devait normalement durer à peu près une quinzaine de minutes. Et puis après une demi-heure, mon frère n'était toujours pas là. Quasiment après une heure, il n'était pas là. Alors, mon papa commençait vraiment à s'inquiéter. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Au bout d'une heure et quinze, une heure et demie à peu près, il revient en chantonnant, en sautant, en gambadant partout à la maison. Il n'avait pas la commission en main. Il avait complètement oublié. Mon père dit, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, moi, j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis converti. Mais alors, pour nous, ça ne signifiait rien du tout. Et c'est parce que, bon, vous savez, les Africains aiment beaucoup la musique. Je me rappelle bien, en ce moment-là, il y avait une convention, il disait la convention des églises de Pentecôte dans notre village. Et puis, il y avait du tam-tam, du tambour, il y avait des chants, des danses partout. En fait, au lieu d'aller à la commission, mon frère était allé plutôt là-bas, attiré par la musique. Et puis, il était resté, il a écouté le message et on a lancé un appel. Il a accepté le Seigneur, il a accepté Jésus pendant ce temps-là, et puis il était revenu à la maison complètement changé. Il sautait partout comme si quelque chose lui était arrivé, comme s'il avait pris, en tout cas, on ne sait pas quel moustique l'avait piqué, Mais c'était ça, c'était le moustique de Jésus. Alors, mon papa était très étonné et il dit, mais et ma commission? Il dit, oh papa, j'ai oublié. Alors, il est retourné après pour la commission quand même. Mais à partir de ce moment-là, ça l'a beaucoup changé. Son attitude, son comportement a beaucoup changé à la maison. Et le dimanche, plutôt que de rester à la maison ou d'aller à l'église catholique, il allait plutôt à cette nouvelle église qui était une église de Pentecôte. Et comme il persistait beaucoup en ça, ça commençait à inquiéter mon papa. Surtout parce que quand on devait aller faire de nos sacrifices aux animaux et tout ça, faire nos trucs de vaudou, mon frère ne voulait plus participer du tout. Et moi, comme je suis très, très lié avec mon frère, je l'observais. Je voyais que les changements qui se passaient dans sa vie, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'était plutôt du bon. Alors, je voulais le suivre dans ce lieu-là, mais je ne comprenais pas trop. Alors, j'étais un peu hésitant. Et après tout, mon frère, quand il parlait à mes parents de sa nouvelle conception et de son Jésus, mes parents ont dit, on ne veut pas que ça arrive dans ta vie. Mon frère a dit, non, ce que j'ai fait, je ne peux plus changer. Et pour faire une histoire courte, ce qui était comme un défi entre mon frère et mes parents, c'est que mon frère avait dit à papa et maman, je vais inviter ceux qui ont parlé dans cette assemblée-là, et donc il voulait inviter les gens de son église à venir à la maison pour parler avec mes parents. Et mon papa l'a pris comme un défi, il dit, oh oui, amène-les, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. Et par un concours de circonstances que Dieu seul sait comment, les anciens ou les grandes personnes là, de cette église sont venus à la maison et ils sont venus comme une bande d'une quinzaine ou une vingtaine. Dans mes yeux de petit enfant, je les voyais vraiment très, très nombreux, mais ils étaient une bonne vingtaine à venir à la maison. Et plutôt que de parler juste à mon papa, ils avaient installé des bancs et ils ont commencé à faire exactement comme ils avaient fait dans la convention, là, c'est-à-dire qu'ils prêchaient la bonne nouvelle, ils prêchaient la parole de Dieu, ils chantaient, ils dansaient et on était tous là. Et à la fin, ils ont fait exactement la même chose, ils ont lancé un appel. Moi, j'étais tellement touché par ce qui se passait, que c'est en ce moment-là que j'ai donné ma vie à Jésus. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'étais un bon garçon. Je ne faisais rien de mauvais. Pour moi, la priorité, c'était les études. Mais qu'est-ce qui m'a touché dans leur message? C'est qu'ils disaient quelque chose de très, très particulier. Ils disent que tout le monde, tous les hommes et les femmes sont des pécheurs. Et moi, j'ai dit non. Moi, je suis un bon garçon. Je ne suis pas pécheur. Et je ne sais pas comment il expliquait les choses, mais quelque chose qui a frappé mon attention, c'est qu'il disait, même si tu n'as jamais tué, tu es quand même un pécheur. Si un jour, ta maman a fait chez nous on appelle quelque chose les beignets, là, les botocoins, les Togolais comprennent bien ça, quand on a des repas communautaires, la Georgine fait souvent ça, et puis les petites boulettes là, les beignets africains, très très bons. Si ta maman a fait des beignets, t'as interdit de le prendre et que tu en as pris, tu es un pécheur. Si ta maman a déposé de l'argent quelque part et que tu as pris sans lui demander et que tu lui as jamais dit, tu es un pécheur. Et là, je me suis reconnu que, oups, j'ai jamais tué, mais les beignets, je les aimais tellement que quand il y en avait une vingtaine que j'en prenais un, maman ne se rendait pas compte, alors je ne l'ai jamais dit. Là, ça m'a touché. Quand il a parlé de l'argent, je me rappelle que j'ai pris un 2 francs, ça vaut absolument rien là, mais à l'époque ça valait beaucoup, 2 francs de ma maman, parce qu'elle faisait du commerce, il y avait beaucoup d'argent, j'ai pris 2 francs pour aller acheter des beignets justement à l'école et je ne lui ai pas dit. Là, je me suis reconnu que, oups, ça me concerne aussi. Et il dit, pour cela, Jésus est venu mourir pour toi dans ton péché. Et donc, c'est en ce moment-là, dans ma maison, que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et mes parents, certainement, ça ne les a pas beaucoup touchés. Mais je crois fermement que cette réunion a pu être organisée, ou ce défi que mon papa a lancé à mon frère a pu se réaliser simplement parce que le Seigneur voulait m'enlever, voulait me toucher, voulait me rapprocher de lui. Donc, j'avais 14 ans à l'époque, un été. Et le temps des classes, le temps de retour à l'école était arrivé et on devait repartir dans notre village à 12 kilomètres. Et mon papa, voyant que moi et mon frère Didier, on était tellement sérieux dans notre engagement que maintenant on refusait tout ce qui concernait aller faire les sacrifices au vaudou ou tout ce qui concernait aller à l'église catholique, il commençait à savoir que c'est du sérieux que ces deux enfants faisaient. Et pour nous challenger, ou ben, c'est pas, j'appellerais pas ça une persécution, mais pour nous mettre au défi ou nous faire peur, en réalité, ils ont dit, ben, à compter de maintenant, vous allez retourner à Tabligbo, c'était la ville où on allait pour le collège, vous allez retourner là, et si vous continuez, vous persistez à dire que vous n'allez plus faire les cérémonies comme on avait l'habitude de faire, je vous considère plus mes enfants, tous les deux. C'est-à-dire que je ne vous donne plus de la nourriture, et quand vous revenez le week-end, vous vous débrouillez tout seul. Moi, je peux vous dire que j'ai eu la trouille, parce que aller à l'école, c'était mon dada, c'est ce que j'aimais faire, et quelque chose qui va m'empêcher d'aller à l'école, je ne voulais pas que ça arrive. Alors j'ai dit à mon frère, ça devient sérieux. Alors moi, je préfère rejeter tout ça et puis revenir à la maison et avoir la nourriture quand il le faut. Mon frère Didier a dit non, Boniface, il faut qu'on demande à nos anciens, à les gens de l'église, de prier pour nous. On ne peut pas faire marche arrière. J'étais hésitant, mais comme j'ai tellement confiance en mon frère, je lui ai dit d'accord, on va demander. Effectivement, on a demandé aux frères de prier pour nous. Les frères priaient, ils faisaient, il y a même qui ont fait des jeûnes et prières pour nous, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Ça a duré quand même 2 fins de semaine, on est rentré à la maison, mon papa ne nous a rien donné. On est retourné et dans la ville où on était, il y avait une autre église à laquelle on assistait. Donc, c'est les gens de l'église qui nous ont supportés. Ça a pris 2 semaines. Je ne sais pas exactement combien de temps ça a pris, mais je sais que ça n'a pas fait plus d'un mois. Je sais que ça touchait le cœur de mon père de nous voir les enfants revenir et puis repartir les mains vides. Et nous avons un autre grand frère, celui qui est le premier de ma maman, qui était à la capitale, qui nous donnait de l'argent. Mes parents, c'était la nourriture, mais lui, c'était de l'argent. Mon frère aussi a appris cela, et il était d'accord avec les parents de ne plus nous supporter. Et quand c'est arrivé que les frères commençaient à prier, notre frère qui était à Lomé, après à peu près un mois, je ne peux pas confirmer, mais à peu près un mois, il a recommencé à nous donner de l'argent. Et figurez-vous, il ne nous donnait pas ce qu'il nous donnait avant uniquement, mais il a doublé le montant qu'il nous donnait. Quelque part pour compenser ce que le papa ne nous donnait pas. Et ça n'a pas pris 1 ou 2 semaines. On a appris que notre frère qui était à Lomé, à 70 km de notre village, il s'était donné au Seigneur lui aussi. Dans des circonstances complètement, qui m'étonnent, que Dieu seul peut expliquer. Et donc c'est pour cela qu'il a compris que le choix qu'on a fait c'était le bon choix. Il a commencé à nous donner le double de ce qu'il nous donnait avant. Et notre papa, à notre grande surprise, quand on est revenu à la maison, il nous a redonné encore de la nourriture pour repartir. Donc cela nous confirmait que on a fait le bon choix et on a remercié les frères et sœurs pour ce qu'ils ont fait pour nous. On a commencé à goûter ce que c'est que de prier et de se soutenir les uns les autres. Prochaine diapo. Voilà. Donc le verset que nos frères citaient beaucoup à l'époque, là c'est ce verset qui a toujours marqué mon esprit. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement de plus que nous voyons s'approcher le jour. Donc c'est un verset qui était clé pour nous au début de ma vie chrétienne et on a vu vraiment les frères et sœurs nous soutenir, être notre nouvelle famille en réalité. Mais je suis content que ça n'a pas duré avec la forme de persécution avec mes parents, mais ils ont changé. Pourquoi ils ont changé aussi? C'est simplement parce que ils ont vu que notre attitude n'allait pas dans un mauvais sens finalement. Le respect qu'on leur devait, on leur donnait toujours le respect. On avait simplement refusé d'aller faire du vaudou, mais on les respectait encore plus qu'avant. Donc je pense que ça les a énormément travaillé pour qu'ils revoient leur position. Donc c'est une forme de persécution que je dirais que j'ai vécue, mais je suis content parce que si c'était moi seul, j'aurais pas tenu. C'était à cause de mon grand frère, je l'avoue humblement, à cause de mon grand frère qu'on a tenu et puis qu'on a pu avoir cette bénédiction d'être soutenu par les frères et puis de voir notre grand frère aussi, par la grâce de Dieu, se donner à notre Seigneur Jésus-Christ. Next. Alors maintenant, la tranche de vie 14-24 ans. Bien évidemment, j'ai continué à aller à l'école. J'ai fini le primaire, le secondaire, ce qu'on appelle à peu près le cégep. Ici, j'ai été au lycée. Et à la dernière année du lycée, je devais passer le baccalauréat. Et en ce moment-là, comme mon frère qui était avant moi, lui, il était parti, mon grand frère ne voulait pas que je reste seul en location. Donc, il m'a amené chez lui à la capitale, à Lomé. Donc, c'est là où j'ai passé mon baccalauréat, qui est en fait les derniers examens avant d'accéder à l'université. C'est pas la même chose ici. Et donc, à Lomé, je me suis joint à une église débutante, en réalité, qui a été formée ou fondée par des missionnaires américains. Et c'était une église assez spéciale parce que les missionnaires sont venus et leur vision, c'est juste de rassembler des jeunes entre 12, 16, 17 ans, juste des jeunes et commencer à leur enseigner. Et vous savez, chez nous en Afrique, le football, c'est très populaire. Donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils nous rassemblaient, on faisait du football ensemble, du soccer ensemble, et après, ils nous offraient des beignets ou des jus et des choses comme ça, et ils nous enseignaient. Alors, on était attirés par la compétition du soccer, mais aussi, on était vraiment stupéfaits de voir des Blancs débarquer de on ne sait où, et puis s'intéresser comme ça à nous, jeunes, du lycée et puis de l'université. Donc, on était vraiment jeunes à l'époque et ils avaient une vision, vraiment, ces missionnaires, et je le reconnais encore aujourd'hui. C'est là où j'ai eu ma formation biblique la plus approfondie. Ils se fondaient sur des matériels d'ambassadeurs pour Christ, Royal Ambassadors, comme on le disait, et puis de Campus pour Christ pour nous former. Et on a eu une formation très, très solide. Dès ce départ-là, donc entre 14, 16, 17 ans, et ces missionnaires ont fait un travail formidable avec nous. Ce qu'ils nous faisaient aussi, c'est qu'ils ne nous enseignaient pas seulement et puis nous laissaient aller. Ce qu'ils nous apprenaient, le dimanche suivant, eux, ils nous demandaient de faire la même chose avec de nouvelles personnes, de nouveaux amis qu'ils invitaient. Alors, on nous apprenait et puis on mettait en pratique tout de suite, un ou deux dimanches après. Et c'était vraiment la formation choc que j'ai eue. Et il était arrivé un dimanche dans notre église, donc comme c'est une église de jeunes gens, on n'avait vraiment pas de pasteur, donc les missionnaires organisaient des tournées de pasteurs qui venaient de temps en temps nous apporter la parole. Et un dimanche, il s'est fait que moi, je devais faire l'école du dimanche, et parce que c'est l'école dimanche pour enfants et adultes, là, mais on était tous jeunes, donc on faisait l'école dimanche. Et moi, je devais enseigner l'école dimanche. J'ai préparé ma leçon. Un prédicateur devait venir pour donner la prédication, mais l'heure avançait et on voyait que le prédicateur n'était pas là parce qu'il devait être là pour assister à l'école du dimanche aussi avant la prédication. Alors, le missionnaire m'a dit, ben, Boniface, je pense qu'on va manquer ce prédicateur aujourd'hui, donc tu fais pas ton école dimanche, mais tu vas le faire comme une prédication. Oui, j'ai jamais fait ça et je voyais toujours des personnes d'un certain âge là venir nous apporter des prédications et moi ma petite école du dimanche le faire en prédication, je vous disais, c'est ce que je partageais avec les frères à table aujourd'hui, c'est comme le syndrome du caca mou, tu as la diarrhée. Parce que quand j'ai appris ça, j'ai tout de suite dit non et puis il était très sérieux, il m'a dit non Boniface, c'est toi qui apportes la prédication avec ta leçon d'école dimanche. Je n'avais pas le choix, et donc c'est ça que j'ai fait. C'était ma toute première expérience de rester devant les gens et puis de partager. Même si c'est des gens que je connaissais, il y avait quelques rares que je connaissais pas, mais c'était ma toute première expérience. Et ces missionnaires ont continué à travailler avec nous jusqu'à leur départ, quand j'avais à peu près 22 ans. Et avant de partir, ils ont institué, comme on les appelle pas les anciens, mais un comité dans l'église. Aujourd'hui, on appellerait ça les anciens. Et un comité bon, dont je faisais partie aussi. Et ils ont bien structuré l'église avant de partir. Cette église aujourd'hui, c'est une église qui compte, qui est à peu près de la taille de la nôtre, à peu près 400 personnes. L'église de Huiti, j'ai appris même qu'ils font deux services, hein, Daniel. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est une église qui a beaucoup grandi aujourd'hui, mais quand je vois les débuts, c'était ça. Une douzaine d'enfants mis ensemble pour faire du soccer bien sale, manger des beignets et puis boire du jus que des gens visionnaires ont enseigné par la grâce de Dieu. Donc, c'était ça. J'ai été dans ce conseil-là pendant 2-3 ans. J'ai été même le responsable du conseil pendant 16 années. Et j'ai terminé mon premier cycle universitaire dans le domaine médical. Moi, quand j'étudiais, ma vision, c'était de devenir un médecin, un docteur. Et donc, j'ai terminé, j'ai fait mon bac. J'ai allé à l'université, je me suis inscrit en école de médecine. Mais à l'époque, chez nous, pour être médecin, Philippe peut le confirmer, pour être médecin, il faut avoir un nom de famille. C'est des gens d'une certaine famille qui peuvent être médecins. C'est pas forcément donné à tout le monde. Et donc, je me suis inscrit. On était à peu près 250 en première année. Et à la fin de l'année, on m'a dit que j'ai pas réussi. Mais j'ai travaillé comme un fou, mais on m'a dit que j'ai pas réussi. Alors, comme je tenais toujours à faire quelque chose qui est semblable à la médecine, j'ai fait du paramédical. Donc, je me suis inscrit à un institut universitaire de technologie. C'est les laboratoires qui supportent les médecins en faisant des analyses et tout ça. Donc, c'est là que j'ai étudié dans mon premier cycle universitaire. Et je l'avais fini après 3 ans d'études. Donc, je caractériserais cette tranche de ma vie de 14 à 24 ans de la sorte. Prochaine diapo, s'il vous plaît. C'est ce verset que j'aime bien aussi, que je pourrais utiliser pour caractériser cette tranche. « Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Ce missionnaire en particulier avait vu en moi peut-être un don de pouvoir enseigner les autres, de pouvoir encourager les autres, et il m'a poussé quelque part, c'était pas ma volonté, et je pense que chacun de nous aujourd'hui ici, on a des dons et on a des talents que le Seigneur a mis en nous. Alors posons-nous la question, est-ce que je l'utilise? Est-ce que je sers les autres en l'utilisant? Si tel n'est pas le cas, c'est une question à laquelle je vous encourage vraiment à réfléchir. Troisième tranche de vie, de 14, c'est un peu la suite, de 14 à 24 ans. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fini mes 3 ans d'études universitaires, le premier cycle. Et comme moi, comme je vous l'ai dit, étudier, c'est mon dada. Pendant la troisième année, il y avait des coopérants français qui venaient nous enseigner 1 ou 2 cours par année. Et je me suis arrangé avec eux pour savoir est-ce que je peux continuer mes études en France. C'était complètement... J'ai lancé ça comme ça, mais le professeur l'avait pris au sérieux. Et puis, comme j'avais de bonnes notes, il a posé mon dossier quand il est retourné en France. Et puis, j'ai eu une lettre après pour me dire que je suis accepté dans son école. Mais maintenant, un gros défi qui se posait, comment moi, un pauvre villageois, pouvais trouver un billet d'avion, je ne sais pas combien ça coûtait, et puis avoir faire les démarches pour aller en France, j'avais aucune idée qu'est-ce que ça pouvait représenter. Mais mes frères d'église, dans mon église à Huiti, ils ont prié pour moi quand je leur ai exposé ça. Ils n'étaient pas au départ d'accord que je parte, c'est tout à fait normal, mais ils ont prié pour moi et c'est ce qu'on appelait la foi en œuvre. Et figurez-vous, pour faire une histoire courte à ce niveau aussi, la prière de l'Église a permis à ce que je reçoive une bourse du gouvernement. Chez nous, pour avoir une bourse, il faut avoir des parents respectables, bien connus, des gens qui peuvent aller mousser ta candidature pour que tu aies cette bourse. Mais une bourse signifie qu'on couvre tes frais d'hébergement et tout cela. Alors, moi, le petit villageois qui ne connaissait personne, j'ai une bourse, là encore, j'ai vu la force de la prière, la puissance de la prière et la puissance de l'unité dans la prière. Donc, en gros, j'ai eu une bourse et j'ai pris un avion. J'étais jamais allé à un aéroport. J'ai pris un avion et figurez-vous quel avion? L'avion du président. Parce que le Togo, en ce moment-là, était géré par un dictateur. Et le dictateur avait tous les droits et les autres aucun droit. Donc le dictateur, lui, il voyageait en France comme bon lui plaisait. Et puis il allait, il achetait des choses, il ramenait. Donc de temps en temps, il envoyait juste son avion pour aller faire des commissions et puis revenir. Alors, donc, c'est comme le gouvernement ne voulait pas nous payer des billets pour aller, ils ont dit, ben, il y a un vol qui s'en va là en France, donc vous allez prendre ce vol. Et c'est, j'ai pris l'avion présidentiel pour aller, il n'était pas dans l'avion, bien évidemment, j'ai pris l'avion présidentiel pour aller en France. Et c'est comme ça que j'ai fait mon entrée dans la grande, ce qu'on appelle l'Occident. Et je ne connaissais personne en France, je n'ai jamais vu des blancs, autant de blancs. Devant moi, c'est moi qui étais la minorité quand j'étais là-bas, alors que quand les Blancs venaient chez nous, ben c'était eux qui étaient la minorité. Alors c'est tout un apprentissage encore. Donc le petit villageois en France, c'est tout un cheminement. Et quand je suis arrivé en France, la seule chose que je pouvais faire, étant donné que je connaissais personne, c'est de trouver une église. Et effectivement, encore une fois là-bas, c'est l'église qui était devenue ma famille. C'est l'église de Dieu, les frères et sœurs dans l'église, en France, à Poitiers en particulier, qui étaient devenus mes frères et mes sœurs que j'ai perdus en partant de chez moi. Et c'est là où j'ai vu que la foi transcende les frontières. Il n'y a aucune limite. Et la parole de Dieu, c'est ce qui nous unit. Et ça me fait en fait penser à la prochaine acétate, le chant qu'on chante, on chante souvent. Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu. Vous le connaissez, hein? Est-ce qu'on peut le chanter? Oui, nous faisons partie de la famille de les héritiers du Père. Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Ça, c'est une vérité que j'ai vraiment vécue, que je fais partie, même si j'ai laissé ma famille derrière, je fais partie de la famille de Dieu. Et ses frères et sœurs m'ont accepté, m'ont accueilli et m'ont soutenu tout au long de mon séjour en France. Dieu a pourvu, j'ai épargné quelques détails, mais Dieu a pourvu à mes besoins autant que faire se peut et au-delà de ce que je pouvais même attendre. Et j'ai fait mes études, j'ai continué mes études en France. La bourse que j'avais en partant de mon pays, prochaine acétate, en partant de mon pays, c'était une bourse de 3 ans pour faire un diplôme d'ingénieur. Et au bout de ces 3 ans, je devais retourner au pays. Mais, encore une fois, les études pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc, j'ai trouvé un moyen de combiner ma 3e année de diplôme d'ingénieur avec ce qu'on appelle un DEA, un diplôme d'études approfondies, qui me donnait l'occasion de faire des études doctorales. Alors, donc, j'ai fait cette année de transition. Et au bout de cette année de DEA, je devais laisser ma bourse togolaise parce que j'en avais plus. Mais je ne pouvais pas rester en France et étudier sans aucun autre soutien. Alors, par la grâce de Dieu, il y avait une compagnie qui est appelée la Compagnie Générale des Eaux, parce que j'ai étudié dans le domaine du traitement de l'eau potable. Cette compagnie, on a fait des rapports d'activité sur notre projet de stage, et cette compagnie m'a identifié comme étant le récipiendaire de leur bourse. Une bourse assez subséquente, je peux vous dire. C'était 10 000 francs français à l'époque, par mois, ce qui est vraiment substantiel. Et j'étais le candidat. Encore une fois, aucun mérite de ma part, c'est pas la grâce de Dieu qui avait tous ces plans pour moi. Donc j'ai eu une bourse pour mon diplôme doctoral, mon enseignement doctoral de 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, j'ai eu effectivement mon diplôme de PhD, comme on dit. Mais ça ne suffisait pas, ou ça ne s'arrêtait pas là pour le Seigneur. Alors, pendant ma dernière année où je devais présenter ma thèse de doctorat, il y a une femme de Montréal qui venait assister à une conférence internationale là-bas en France, et j'ai parlé avec elle du sujet sur lequel je travaillais. Et puis, la femme, c'était Michèle Prévost, elle est responsable de la chaire en eau potable à l'École polytechnique de Montréal. Ayant vu mon sujet de doctorat, il a dit « Waouh, moi je suis très intéressé à t'avoir comme étudiant postdoctoral dans mon établissement pour une année ou peut-être deux. » Alors, est-ce qu'il fallait que je refuse cette occasion? Avec le sérieux que je mettais dans mes études, j'ai dit « Non, je vais l'accepter. » Et effectivement, c'est ce qui s'était passé. Donc, au bout de mon diplôme doctoral, un petit détail quand même que j'aimerais mettre là-dedans, c'est que quand j'ai eu la bourse d'études de 3 ans, de 10 000 francs français par mois, pendant 3 ans, il y avait d'autres candidats qui étaient français et qui étaient recalés, qui n'avaient pas la bourse. Mon directeur de doctorat a dit, ce qui était complètement illégal, Boniface, tu vois qu'il y a d'autres collègues à toi qui n'ont pas de bourse, qui n'ont pas de financement pour leur étude. Donc, on te demande de prendre une partie de ta bourse, donc 40% de la bourse, tu gardes 60%, mais 40%, donc 2000 francs, tu donnes à deux autres personnes qui faisaient leur doctorat aussi, mais qui n'avaient pas de bourse. Et ça, c'était sans signer aucun papier, c'était complètement illégal. En tant qu'être humain, j'étais enragé de devoir faire ça. Mais j'en ai parlé avec mon pasteur à l'église. Mon pasteur a dit, Boniface, est-ce que l'argent, c'est ça qui va t'empêcher de faire la volonté de Dieu? Peut-être que le Seigneur veut enseigner quelque chose par ici. Donc, j'avais accepté sur conseil de mon pasteur, avec beaucoup de remords quand même. Et donc, ça devait durer pour les 3 ans. Mais je vous dis, Dieu est grand. Après 3 mois que j'ai partagé ma bourse ou que j'ai donné 4 000 de ma bourse à deux autres personnes, mon directeur de thèse était venu me voir et m'a dit, ce que je t'ai demandé, c'est pas normal. Donc, tu gardes ta bourse. On va trouver d'autres moyens pour tes deux autres collègues. Dieu est grand. J'aurais pu faire toute une histoire parce que la bourse que je gagnais, je payais les impôts dessus. Moi, je paierais les impôts pour 10 000 $, mais en réalité, je n'ai que 6 000 $. Donc, il y a tellement de conséquences et ça, c'était fait aucune lettre de signée. Et j'aurais pu prendre des actions légales et puis être tout à fait en droit. Mais est-ce que c'est moi qui me défends ou c'est Dieu qui me défend? Et c'est encore ce que Dieu a fait pour moi. Après 3 mois, je me rappelle très bien, 3 mois, j'ai gagné 6 000 francs et au bout de 4e mois, mes 10 000 me sont revenus ou les 10 000 de Dieu me sont revenus à son enfant. Gloire à Dieu. Alors, prochaine diapo. Le verset qui caractérise cette tranche de ma vie, c'est « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas ». Et ça, je l'ai appris énormément dans ma vie en France, dans tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie, que ce soit en France ou chez moi au Togo avant d'aller en France. Donc, dans cette même tranche, prochaine diapo, il y a une bonne chose qui est arrivée, c'est... mon mariage, mais ça c'est toute une autre histoire aussi, mon mariage. Mon projet de vie, quand je partais de mon église à Lomé, c'était d'aller étudier en France, 3 ans au départ, mais après quand ça s'est rallongé, quand je finissais mes études, moi, mon projet, c'était de retourner au Togo, dans mon église, bien sûr, qui m'attendait les bras grands ouverts, retrouver ma famille et me marier parce que je commençais à prendre de l'âge. Et donc, c'était ça mon plan. Mais c'est pour cela que j'ai volontairement décidé de ne même pas considérer regarder les jeunes filles qui étaient dans mon église autour de moi parce que moi, ma pensée, c'était à Lomé retourner. J'avais pas fait de serment avec aucune fille avant de venir, mais quand même, je sais qu'il y en avait beaucoup dans mon église avec lesquelles je pouvais me marier. Et aussi, simplement parce que dans ma famille, se marier avec un blanc, c'est renier sa famille. Parce que nous, dans notre conception, quand on se marie avec une blanche ou un blanc, c'est que le blanc ou la blanche t'enlève complètement ta famille et tu es déconnecté de ta famille. Parce que ça s'est passé plusieurs fois comme ça, des étudiants qui sont partis ou des Togolais qui sont partis, ils sont mariés avec des gens à l'étranger, en Occident, et puis on les a jamais plus revus, ils sont plus jamais revenus à la maison. Donc c'était une conception qui était ancrée en moi. Donc j'avais fait une croix là-dessus. Une Française, là, bon, c'est simplement pas imaginable. Alors, donc, c'était ça ma conception. Et l'église dans laquelle j'étais en France, à Poitiers, il y avait ma femme aujourd'hui que vous connaissez. Isabelle était dans cette église. Là, elle est venue dans l'église une année après moi. Elle était professeure de psychologie à l'université. Donc, elle était célibataire, bien sûr. Je la voyais, mais vraiment aucune intention. Déjà parce que une prof et moi, petit étudiant, il n'y a rien à voir là. Alors, j'ai beaucoup servi avec Isabelle dans plusieurs domaines dans l'église. Elle faisait souvent l'école du dimanche. Et on avait une église fille qui était à 50 kilomètres de notre ville. Donc, de temps en temps, on me demandait d'aller apporter la parole dans cette église. Alors, Isabelle, elle avait une voiture. Donc, elle se proposait pour m'amener dans cette église. Alors, on s'est connus vraiment de façon complètement indépendante, sans aucune arrière-pensée pendant 5 années. Et au bout de 5 ans, Isabelle a accepté de laisser son travail pour partir en Roumanie pour aider dans le cadre de Vision Mondiale. Et apparemment, c'est pendant qu'elle était là-bas, et même pour qu'elle aille là-bas, c'est moi qui l'ai amenée en voiture. J'avais mon permis à l'époque, je l'ai amenée de Poitiers jusqu'à Paris pour qu'elle prenne son avion. Et encore là, je vous garantis aucune arrière-pensée. J'étais en train d'aider une sœur qui allait servir dans le cadre de Vision Mondiale. Donc, c'est quand elle était en Roumanie pour Vision Mondiale que ça commençait à la travailler. C'est ce qu'elle m'a raconté après. Et de là, elle m'a écrit une lettre pour, en quelques mots, pour me demander si je considérerais éventuellement qu'on se fréquente. Quand j'ai reçu la lettre, je vous dis, c'était un choc total pour moi. Je ne m'y attendais absolument pas que une professeure d'université demande à un petit jeune étudiant s'ils pouvaient sortir ensemble. Alors, bon, mais comme on était séparés par la distance, j'y ai pas fait trop égard. Mais j'en ai quand même parlé à quelques personnes avec lesquelles je me tenais, entre autres mon pasteur. Mon pasteur a dit, on peut quand même prier là-dessus. Et dans ce temps-là, quand je devais répondre à Isabelle, je lui répondais gentiment quand même, je veux pas la frustrer, donc je veux pas lui dire non. Je dis, on va prier là-dessus. C'est la réponse classique des chrétiens, hein, quand on ne sait pas trop quoi dire. Je dis, on va prier là-dessus. Donc, figurez-vous, j'ai écrit ma lettre, ma réponse à Isabelle, je l'ai écrit un 14 février. Mais moi, un 14 février, là, ça ne veut absolument rien dire. Saint-Valentin, je ne sais absolument rien de ça. Isabelle qui reçoit ma lettre, avec la première ligne, 14 février. C'est ça qu'elle me racontait après, dire... Qu'est-ce qui se passe là? Donc, il y a quelque chose. Alors que pour moi, il n'y avait aucun message. En tout cas, peut-être un message subliminal là-dessus, mais il n'y avait rien. Donc, ma réponse était, on va prier dessus. Et puis, Isabelle a fini son année en Roumanie. Elle est revenue et on a commencé à parler. Et quand je suis allé demander à mon pasteur, effectivement, c'est ça que Isabelle dit. Elle est revenue, on a reparlé. Et puis, elle tient ça, qu'est-ce que vous en pensez? Mon pasteur, il a rigolé un peu. Parce que lui et son épouse, ils nous voyaient déjà tous les deux ensemble depuis bien longtemps. Alors que moi, j'en voyais rien du tout. Bon, je dis, je vais en parler avec... Quelque chose qui me dérangeait aussi, c'est qu'Isabelle a quelques années de plus que moi. Et chez nous, c'est l'homme qui doit être le plus, quoi. Le plus âgé dans la famille, et dans la maison. C'est rare chez nous, les femmes plus âgées que l'homme. Alors, je suis allé pour voir un autre frère qui... avec qui j'avais des contacts aussi, que j'admirais beaucoup. Et puis, je lui ai posé la question en disant, Isabelle m'a dit ça, et puis je suis un peu gêné, là. Est-ce que tu peux me conseiller un peu? Et puis, l'homme et la femme m'ont dit, tu nous vois, ma femme est plus âgée que moi. OK. Donc, les deux personnes à qui j'ai parlé en premier, ce qui me dérangeait, moi, que Isabelle soit un peu plus âgée que moi, le couple que je voyais pour me conseiller, il me dit, c'est notre cas aussi. Alors, c'est à partir de là que le Seigneur commençait tranquillement à travailler mon cœur. Maintenant, le grand fardeau, la grosse butte pour moi, c'est d'en informer mes parents. Et je dirais, mes parents, ils vont me tuer, là, ils vont perdre Boniface, c'est fini, là, que je me marie à une blanche. Donc, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai appelé mes parents, j'ai téléphoné à mes parents, et réunion de famille, je leur ai dit... je vais vous exposer un cas et je vous demande de réfléchir là-dessus. C'est comme ça que ça se passe chez nous. On ne donne pas une réponse tout de suite. Réfléchissez là-dessus et puis quand vous aurez le temps, dites-moi et puis je vais vous rappeler. Vous allez me donner votre réponse. Donc, je leur ai confié le cas que c'est comme ça. Il y a une jeune fille qui m'apprécie et puis on considérera éventuellement se fréquenter, mais je respecte votre autorité. Si vous dites que c'est non, ça va être non, mais je veux simplement vous exposer le cas. Donc j'ai appelé mes parents un week-end. On s'est donné une semaine de battement Le week-end d'après, je les ai rappelés et en conseil de famille, ils se sont parlé, bien évidemment. Et puis, ce que mon papa m'a dit, complètement, m'a entièrement interloqué, c'est que Boniface, tu es parti de chez nous, ça fait maintenant 8 ans. Et on a vu plusieurs dans le passé qui sont partis, ils se sont mariés sans rien dire aux parents et on ne les a plus jamais revus. Toi, tu nous as considérés, tu nous as honorés et tu nous appelles pour demander notre avis. Tu as notre bénédiction. J'étais tombé de ma chaise. J'étais complètement tombé de ma chaise. Et donc, c'est ça que le conseil de famille avait décidé, que j'avais le feu vert. Et passant les détails, pour aller un peu plus loin, donc on s'est fiancés, Isabelle et moi, en février 1996, et mes parents ont décidé d'envoyer mon grand frère dont je parlais, qui nous avait doublé la portion là, mon grand frère, ils lui ont demandé de venir assister à nos fiançailles comme représentant de la famille en France, à Poitiers. Et donc c'est ce qui s'était passé, on s'est fiancés au mois de février et puis on s'est mariés au mois de juin 1996 plutôt. Et donc c'est comme ça que ça s'est passé, toujours dans cette tranche de vie pour moi à Poitiers en France. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui. Non. Donc cette tranche de vie, je la caractérisais en disant qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Si moi, je devais tenir à mes projets, je finis mes études en France, je retourne au Togo, je me marie au Togo, je rejoins mon église et puis la vie continue. Mais le Seigneur avait d'autres plans pour moi et il fallait que je sois à l'écoute pour l'écouter, pour obéir aussi à ce qu'il disait. Et je suis sûr que Isabelle, c'est la femme que Dieu m'a destinée et pour moi, elle est la plus belle. Pour vous, c'est votre femme, mais pour moi, c'est elle. Donc c'est ça. Donc pour cette partie, je pense que c'est. Je vais aborder maintenant la phase de vie 33 à 38 ans. Donc comme je disais quelques minutes avant, à la fin de mon doctorat, il y a une dame de l'école polytechnique qui m'a approché pour venir faire une année ou deux de postdoc à Montréal. Donc je l'ai accepté et je suis venu à Montréal à l'école polytechnique comme postdoc. Et à Montréal, on a passé 6 ans au total. En réalité, on est parti de la France 6 semaines après notre mariage. En fait, on est arrivé à Montréal comme pour notre lune de miel et ça dure depuis 20 ans, bientôt 21 ans qu'on est ici au Canada. Donc, on est arrivé en août 96 à Montréal. J'ai fait 2 années de postdoc et ensuite, une opportunité s'est offerte pour que je prenne un poste d'associé de recherche que j'ai aussi fait pendant 4 ans. Et encore une fois, là-bas à Montréal, mon plan, mon projet, c'était, comme Isabelle a dû demander une mise en disponibilité en France pour suivre son conjoint, ce qui était accordé, et qui l'est toujours d'ailleurs, on renouvelle ça chaque année. Mon idée, mon plan, mon projet, c'était de faire mes 2 ans de postdoc et puis de repartir en France. Isabelle reprend son travail qui est bien payé. Moi, je me cherche un bon travail parce que j'ai fait un postdoc en Amérique du Nord et puis la vie continue. C'était ça mon plan à moi. Et après les 2 ans de postdoc, quelques années d'associé de recherche, on n'a jamais pensé demander une carte de résident permanent et tout ça. On nous offrait ça à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. On nous encourageait simplement à le faire. J'ai jamais pensé à ça. Alors, comme je voulais faire selon mon plan, je suis retourné en France pendant une année au mois de mai pour passer un concours, parce que c'était le concours de recrutement pour les gens dans la fonction publique en France. Et je suis retourné, j'ai passé le concours, je suis revenu, on m'a envoyé les résultats et on me disait que j'avais 11,5 de moyenne, 11,5 sur 20, et que c'est un concours, c'est à partir de 12 et au-delà qui avait réussi. Donc j'ai échoué à mon examen. C'est à partir de ce moment que j'ai commencé à dire, et si j'essayais la carte de résident permanent? Et donc on a commencé les démarches. Ça n'a pas pris de temps, on l'a obtenu très très vite. Et puis on nous envoyait souvent des dossiers. Vous avez droit maintenant à être citoyen canadien, est-ce que vous voulez postuler? Ça ne m'intéressait pas, moi je voulais toujours retourner en France. Mais après ce concours-là qui n'a pas fonctionné, je me suis dit, pourquoi pas? J'essaye, je suis togolais, j'étais déjà français à cause de mon mariage, pourquoi ne pas être canadien? Moi, je suis citoyen du monde, pourquoi pas? Alors, on a opté pour postuler pour la citoyenneté et on l'a obtenue. Et après ma citoyenneté canadienne, le premier poste auquel j'ai postulé ici au Canada, c'est là où je suis actuellement, au gouvernement. Donc, j'étais à l'époque à Montréal, j'ai postulé, j'ai réussi le concours et j'ai été pris, j'ai été le candidat choisi. Et donc, c'était en 2002, il fallait que je quitte Montréal pour venir ici à Gatineau. Alors, vous voyez comment le Seigneur fait les choses, comment il coordonne les activités, comment nos plans et nos pensées peuvent être différentes des siennes, mais comment si nous sommes à l'écoute de Dieu, le Seigneur nous conduit toujours. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu dans ma vie. Donc, on a quitté Montréal et on devait arriver à Gatineau. Ah oui, j'ai sauté des termes, mais c'est pas grave. Alors, on est arrivé à Gatineau en septembre 2002. Et pour nous, là-bas, ce qu'on devait faire ici, c'est soit on vit, comme je travaillais à Ottawa, on cherche un appartement à Gatineau ou on cherche un appartement à Ottawa. Et pour nous, on voulait aller à Ottawa parce qu'on voulait améliorer notre anglais. Mais comment les choses se sont passées, finalement, on s'est retrouvés à Gatineau et à Hall au départ. Quand on était à Hall, on a fait la tournée des églises. On a parcouru à peu près une douzaine d'églises pour faire notre choix parce qu'on avait déjà, nos trois enfants étaient nés à Montréal et on voulait une église qui ait une structure pour nous accueillir. Donc on a fait la tournée et qu'est-ce qui s'est fait pour qu'on ait finalement atterri à Gatineau? C'était à cause de l'accueil. L'accueil qu'on a reçu lorsqu'on était venu dans cette église. On nous a présenté le dimanche matin qui sont ceux qui sont là pour la première fois. On a levé notre main. Je me rappelle ce jour-là, et quand Isabelle et moi, on s'est levés. Et je dis, je voulais nous présenter. Je dis, moi, je m'appelle Isabelle. Et puis, hop, là, je me suis trompé. Alors, les gens m'ont agacé pendant plusieurs semaines avec ça. Parce que je voulais dire, moi, je m'appelle Boniface et elle, Isabelle. Moi, je dis, je suis Isabelle et puis elle. Alors, donc, c'est ça. On a été très bien accueillis. Après notre présentation à l'église, le dimanche matin, il y a le pasteur Noël Morissette qui était là à l'époque. Il nous a rendu visite la semaine qui suivait. Et à partir de là, il nous a rendu visite pendant au moins 8 semaines d'affilée. Quelquefois seul, quelquefois avec Gaston Larabie. Et ils ont parcouru avec nous les fondements de l'église ici pour savoir si on venait d'un arrière-plan qui concordait. Et on a vu cet amour, cet accueil-là. Et ma femme, quand elle pourrait témoigner, là, elle dirait qu'on est venu un dimanche matin avec nos enfants, la dernière Myriam, qui a maintenant bientôt 15 ans, elle était encore pas mal aux couches et on devait nous séparer d'elle pour la mettre avec les autres à la garderie. On n'était pas sécurisés. Il y a la sœur de Madame Grenier, la sœur de Linda, je me rappelle plus comment elle s'appelle, Ginette Grenier, qui était venue nous voir, dit à Isabelle, t'inquiète pas, on va s'occuper d'elle, elle va se sentir comme chez elle. Aucun problème. Elle nous a tellement rassurés, on a laissé notre fille aller, pas un pleur. Jusqu'à la fin de la garderie, on l'a récupéré, tout s'est bien passé. Donc, ils nous ont mis à l'aise, le pasteur Morissette nous a rendu visite pendant longtemps et on s'est senti vraiment chez nous ici. Et depuis 2003, janvier 2003, on a décidé que c'est ici notre église et c'est pour cela qu'on est ici. Alors, je voulais simplement dire que dans cet aspect-là, un verset que je pourrais mettre pour le résumer, c'est Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Et Dieu a placé Noël Morissette comme quelqu'un qui est responsable à l'époque de l'accueil, peut-être. Dieu a placé Ginette comme quelqu'un qui s'occuperait des enfants. Et toi, quel est ton rôle? Dieu t'a placé dans le corps comme quoi? Un cheveu, un ongle, un œil, une bouche, une oreille. Alors, il faut que tu découvres ta place. Et nous avons vu que Dieu voulait, du moins pour le moment, jusque-là, qu'on soit dans cette église et on est bien content d'y être. Donc, je dirais que c'est ça qui résume, grosso modo, mon parcours de vie. depuis mon petit village natal de quelques milliers d'habitants jusque dans cette grande ville de Gatineau. Et pour finir, j'irai avec une petite rétrospective. Qu'est-ce que je retiendrai de mon parcours de vie? Première chose que je retiendrai, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est, reste et demeurera toujours fidèle. Dieu ne change pas, il accomplit ce qu'il a promis. Ses plans pour nous sont des plans merveilleux, parfaits. Il est pour moi, il est pour toi aussi et il ne change pas. Je retiens aussi la bonté de Dieu. La bonté de Dieu parce que rien ne m'a destiné, de par mes origines, de par ma famille, rien ne m'a destiné à être ici dans un pays de blanc qui plus est froid. Rien ne m'a destiné à ça. Dieu m'a destiné, selon ma compréhension humaine, à être dans mon petit village, peut-être à sortir de mon village, à aller à Lomé, la grande capitale, et puis à travailler là, à rester dans mon pays. Dieu ne m'a pas destiné, selon mes plans, selon ma compréhension, à me marier avec une femme aussi merveilleuse qu'Isabelle et avoir des enfants qui sont les nôtres aujourd'hui en bonne santé. C'est la bonté de Dieu. Aucun mérite de ma part, mais toute la bonté à Dieu. Donc Dieu est fidèle. Dieu a tellement de caractéristiques, mais pour moi, les deux qui me touchent toujours lorsque j'y pense, c'est la bonté et la fidélité. Parce que moi, je ne suis pas fidèle, mais lui, il est fidèle. Si je considère comment je suis, comment je me comporte, et qui Dieu est et comment il se comporte, comment il me tient, comment il m'entretient, je retiens sa fidélité. Donc la bonté et la fidélité de Dieu, parmi les milliers et myriades de caractéristiques de Dieu, c'est les deux qui me touchent le plus. Dieu est fidèle et il ne change pas. Retenez aussi qu'il est bon pour moi, mais il est bon aussi pour toi et pour chacun de vous. C'est pour cela que j'aimerais finir, vous savez que j'aime bien chanter, donc j'aimerais qu'on finisse avec un chant et je vais vous donner l'opportunité, si vous avez des questions aussi, à me poser, parce que j'ai assez parlé comme ça. Le chant, c'est « Dieu fidèle, tu ne changes pas ». Je ne sais pas si vous le connaissez, il y en a qui le connaissent. « Dieu fidèle, tu ne changes pas ». Ok. Donc Jean-Louis, si tu peux le mettre, on peut se lever ensemble pour le chanter, s'il vous plaît. Dieu fidèle, tu ne changes pas, éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, tu es le Dieu fidèle, le Dieu bon, le Dieu qui ne change pas. Je te rends grâce, Seigneur, pour le parcours que tu m'as donné et de m'avoir donné le privilège de pouvoir partager avec mes frères. Lorsque je m'arrête et que je considère ce que tu as fait, ce que tu as accompli dans ma vie, je ne peux être qu'ébahi et je ne peux être que reconnaissant. Seigneur, rien n'est de mon mérite, mais tout est par ta grâce. Je te loue, je te bénis, je te glorifie de qui tu es, de ta fidélité dans ma vie, dans celle de mes frères et dans celle de ton Église. Oui, Seigneur, tu nous prépares à cette œuvre glorieuse d'annoncer ta parole. Et tu reviens nous chercher, Seigneur. Nous voulons nous aussi démontrer cette fidélité les uns envers les autres et être à la place, reconnaître la place que tu nous donnes dans ton Église et, Seigneur, te servir avec obéissance. Seigneur, que nos plans ne cachent pas les tiens, parce que nous savons que tes plans, tes projets sont des plans et des projets de bonheur pour nous. Seigneur, que nous ayons le courage et l'humilité de rejeter nos plans pour que les tiens prennent le dessus. C'est ma prière pour moi-même, c'est ma prière pour mes frères et c'est ma prière pour ton Église. Œuvre que ton Église grandisse pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.